Alors bonsoir, bienvenue à cette causerie Olivieri consacrée à ce très beau thème qui est la. Ça va. Voilà, on a des réglages ont été faits. Donc à cette causerie Olivieri consacrée à partir et autour de ce livre de Michel Marie, dont on célèbre le lancement aujourd'hui, donc Les Grands Pervers au cinéma. Alors, je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux. Visiblement, le sujet a son côté un peu attrayant. Je m'en réjouis. Je vous présente rapidement un peu d'abord l'auteur de ce livre, Michel Marie, qui est professeur à l'Université Paris 3, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du cinéma, sur l'histoire du cinéma des premiers temps, sur la nouvelle vague, notamment, qui est également titulaire de la chaire d'études de la France contemporaine au CERIUM. J'imagine qu'il faut les remercier aussi, donc on remercie les gens du CERIUM qui ont entre autres permis que cet événement-là ait lieu, et également l'éditeur, j'imagine, Armand Collin. Michel Marie dirige entre autres donc la collection album Armand Collin Cinéma, où est donc publié ce livre, et avec d'autres aussi. Donc Michel Marie, donc bienvenue. À ma gauche, Monsieur Denis Héroux, depuis déjà un an et demi, presque deux ans, professeur invité à l'Université de Montréal. Il anime également l'Observatoire du cinéma au Québec, dont on va annoncer le lancement officiel, je crois, très prochainement. Il est également, comme vous le savez, un producteur prolifique. Il a produit les films de Gilles Carle, les films de Louis Malle, les films de Chabrol et quantité d'autres, Jean-Jacques Hano. Il est également un des réalisateurs clés, il faut bien le rappeler, de l'histoire du cinéma québécois avec Valérie, L'Initiation et quelques autres films. À ma droite, extrême droite, non pas idéologique, mais de la table, Monsieur Martin Lefebvre, professeur à l'Université Concordia, qui est rédacteur en chef de la revue de recherche sémiotique, qui a écrit un essai que certains d'entre vous connaissent peut-être sur Psycho, notamment sur la scène de la douche de Psycho, autour de la scène de la douche de Psycho. Il est aussi l'auteur, j'ai sorti les choses des boulamites, il avait 25 ans, un très bel essai que j'aime bien sur la réception spectatorielle du film pornographique. Et il a organisé jadis aussi un colloque sur les tueurs en série, et il s'intéresse un peu, entre autres choses, à la figure de l'anthropophagie et tout ce qui est rattaché un peu aux perversions alimentaires. Alors, nous sommes donc en très bonne compagnie. Pourquoi j'ai été invité à animer cette séance est une autre question. C'est un autre sujet. Donc, on va tout de suite commencer. En fait, donc, comment ça va se passer? C'est très simple. J'ai une série de questions pour les intervenants ici. Je vais commencer à poser 2-3 questions à Michel Marie, et puis éventuellement, je demanderai aux invités s'ils veulent rebondir sur une des choses que Michel Marie a pu dire, soit Denis, soit Martin, sentez-vous à l'aise, et puis j'ai des questions ensuite pour nos invités, et bon, on va parler pour environ une heure, et puis après une heure, la tribune sera ouverte, vous pouvez laisser libre cours à vos curiosités perverses. Donc, Michel Marie, donc vous le dites d'entrée de jeu donc dans le livre, il ne s'agit pas donc dans ce livre d'une étude théorique approfondie donc sur la théorie de la perversion au cinéma. C'est une sorte de taxinomie très bien faite, il faut bien le dire, très bien richement illustrée des différents types de perversion. Ceux qui ont pu le consulter le livre, vous êtes bien servis. Hein, on y va de la zoophilie, pédophilie, sadomasochisme, fétichisme, enfin, toutes les belles perversions qu'on adore voir au cinéma. Peut-être la grande question que je peux vous poser, peut-être pour amorcer un peu la discussion, c'est d'une part, comment vous est venue un peu l'idée du livre, quelles sont un peu les sources, quel a été un peu le cahier de charge, s'il y en avait un, pour ce livre, et surtout, peut-être quels ont été les défis particuliers dans la rédaction de ce type d'ouvrage. On peut commencer avec ça, et puis...
Oui, d'accord. Non, mais je vais vous être franc. Donc, en fait, je dirige encore une collection universitaire extrêmement sérieuse, cinéma et audiovisuel, créée en 83 chez Nathan, bon, qui, avec l'histoire du capitalisme français, a changé de propriétaire. s'est retrouvé chez Armand Collin, puis maintenant chez Hachette. Hein, donc, bon. Alors, des livres que tous les étudiants de cinéma connaissent, comme Esthétique du film, l'analyse des films, l'image, etc., la nouvelle vague, bon. Mais nous sommes dans une librairie ici, et ce qui se passe en France, mais un peu partout dans le monde, je pense, c'est que le lectorat s'écroule. Hein, donc, c'est-à-dire que les chiffres des manuels universitaires, tous les livres de sciences humaines, baissent de 40% par année. Hein, donc, alors la maison d'édition a changé plusieurs fois aussi de propriétaire. Donc, et on a fini par avoir un philosophe assez original qui a atterri chez nous. Donc, et l'un de ses buts, c'était d'essayer de remonter la pente. Alors on a essayé avec quelques manuels, bon, mais qui ont tous été des échecs retentissants. Donc, mais on avait aussi un problème massif, frontal, qui était l'iconographie. Bon, ça concerne tout le monde. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de, enfin, au niveau international même, hein, il n'y a pas de véritable statut de citation de films, d'une part, et puis même d'usage des photographies, sauf celles qui appartiennent à des agences. Hein, et pour le cinéma, c'est vraiment la jungle. Donc, alors par exemple, les cahiers du cinéma qui sont en état de liquidation aujourd'hui, qui ont été rachetés par Fédon, enfin bon. Donc ils ont publié de beaux albums, enfin, mais ils ont toujours fait l'impasse sur donc les droits de photographie. Alors ils ont eu plusieurs procès, enfin ils ont réussi à s'en sortir plus ou moins. Donc bon, et Nathan bon, était assez prudent. Bon, une fois ils ont eu un procès pour des schémas informatiques, enfin bon. Donc dès qu'on mettait une petite photo, il dit oulala, attention, ça va coûter une fortune. Moi je me souviens que mon livre sur la nouvelle vague, il y avait une vignette vraiment de toute petite, un timbre poste de Adieu Philippines. On avait demandé les droits aux distributeurs, etc. Bon. Et deux ans après, le photographe de plateau nous envoie une lettre recommandée, enfin, etc., demandant pour une vignette 2 000 € de droits. Hein, c'est bon.
On est loin des pervers. Voilà.
Non, mais on y arrive. Bon, alors, on y arrive. Alors, donc, on pensait que, comme il y a quand même un phénomène nouveau qui est à chaîne aussi dans l'édition. Donc, bon. Et il fallait absolument que, enfin, si on continuait à publier des livres sans photos, on allait droit au mur. Bon. Alors, on a essayé de trouver des solutions avec la Cinémathèque française, avec les agences. Bon, ça a traîné pendant 3-4 ans. Et puis, on a fini par trouver une solution avec les filles de Monsieur Cinéma, donc, qui s'occupaient de la gestion des droits. Bon, bon. Et ensuite, donc, on voulait faire des livres relativement stimulant ou sérieux sur le plan intellectuel, mais un peu attrayant aussi, donc avec une mise en page, alors le format italienne, des photos, donc, hein. Et puis quelques réunions rédactionnelles, et ce philosophe auquel... C'est lui qui a eu l'idée des grands pervers, c'est pas moi, hein, donc... il s'appelle Jean-Christophe Tamisier. Donc, et alors, bon, moi j'avais proposé les films maudits, comme ça, un peu, en rigolant. Donc, alors il m'a dit, ah, les grands pervers, c'est pas mal, ça, bon. Et puis, il y a eu quelques projets amenés par des auteurs, par exemple, les hommes-objets. On s'est dit, tiens, ça va intéresser les études gays, bon, peut-être. alors, puisqu'on a fait des fois, une de mes collègues m'a dit, vous faites les hommes-objets, ben, pourquoi vous faites pas les femmes d'action? Alors, on a fait les femmes d'action. Puis un autre a proposé les monstres, puis un quatrième, l'amour fou, les prochains qui vont sortir. Enfin bon, on ne sait pas si on va continuer. Hein, donc, voilà. Donc, et puis les pervers, ça revenait tout le temps. Qui va écrire ça? Bon, moi j'ai fini. Bon, mais j'ai failli par me dévouer. En fait, bon, c'est-à-dire que j'ai croisé des intérêts que j'avais depuis très longtemps. Enfin, bon, quand moi j'ai étudié la sémiologie, enfin, dans la théorie du cinéma ou l'esthétique du cinéma avec Henri Hagel, Jean Mitry, il y a plus de 50 ans, donc enfin, bon, c'est à peu près. Donc, et puis, et j'ai été étudiant de Christian Metz pendant, bon, et surtout j'ai suivi son séminaire psychanalyse et cinéma, donc son livre extraordinaire, Le signifiant imaginaire. Bon. Donc, et j'avais été tout à fait convaincu par les thèses qu'il développait sur cinéphilie, voyeurisme, enfin, sur la différence entre les spectateurs de cinéma et les spectateurs de théâtre. Hein, donc, et, c'est-à-dire que les spectateurs de théâtre, enfin, le théâtre, enfin, c'est, on en parlait tout à l'heure, n'attire que les exhibitionnistes et le cinéma que les voyeurs. Donc, alors, peut-être dans la salle, il y a moitié-moitié, mais enfin, il y a quelques personnes qui arrivent à cumuler les deux perversions, mais c'est ouais, Patrice Giraud, Visconti et bien d'autres, hein, mais c'est quand même assez exceptionnel. Bon. Donc, alors, comme ces thèses sur le voyeurisme au cinéma m'avaient toujours beaucoup intéressé, donc je m'intéressais aussi à la psychanalyse sans être un grand spécialiste. Et puis, dans mes films de chevet, il y avait Le Voyeur de Michael Powell, etc. Donc, les films d'Hitchcock, de Buñuel, donc voilà. Et donc, alors ensuite, bon, j'ai creusé le sujet. Et surtout, je me suis servi de deux livres absolument formidables que j'ai amenés ici, auxquels je veux rendre hommage. Donc, le livre d'Elisabeth Roudinesco, La part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers. Et puis, un livre d'un psychanalyste psychiatre français, La perversion, se venger pour survivre. Donc, il y a un chapitre absolument génial sur l'exhibitionnisme de Marilyn Monroe, mais étudié en termes psychiatriques, quoi. Donc, j'aurais dû l'intégrer dans le livre, mais bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le principal reproche qu'on peut faire au livre, c'est d'être très, très sélectif, partiel, parce que en le lisant, on évoque tous les films qui n'y sont pas.
Mais vous avez commencé par faire une taxinomie de perversion ou une liste de films qui vous semblait particulièrement...
Bon, les deux en même temps, c'est-à-dire il fallait établir... Parce que, bon, les photos, hein, donc il fallait qu'on se serve du fond des films de Monsieur Cinéma, donc alors on a établi des filmographies, alors 200 titres, puis qu'on a réduit après à 60 ou 80. Enfin, on était parti sur l'idée de... Enfin, moi, j'avais un ensemble de 200 photos, mais il fallait qu'on en garde 80. Et puis, on était limité même en termes de signes. Hein. Donc, on m'a coupé le quart du manuscrit pour pouvoir caser les photos. Mais bon, mais c'est banal, hein. C'est l'histoire de l'édition. Donc, et puis, on ne sait pas si ça va survivre, hein, parce que là, pour l'instant, il y en a 2000 qui sont partis. Ce qui est pas mal, parce que on en était à 700 exemplaires pour les livres universitaires, mais le taux de survie est à 3005, hein, donc il va falloir qu'on rame encore. Bon, donc d'où cette soirée,
Mais non, mais
je n'ai pas le talent de mon ami André Gaudreau qui arrive à fourguer 25 abonnements de sa revue illisible au congrès des profs de cinéma. Parle de cinéma.
Je vais peut-être...
des numéros formidables dirigés par mon voisin.
Oui, mais c'est une question de confiance.
Je vais peut-être faire... Bon, quand on lit votre livre, enfin, on réalise une chose, c'est qu'il y a une sorte d'association intéressante, d'une part, entre ce qu'on pourrait appeler les grandes figures de pervers au cinéma, et il y a en général une sorte d'équation presque qu'on fait entre le réalisateur et le film. Il y aurait d'une part des films pervers, il y aurait d'autre part des personnages pervers dans des films, et très souvent, par association, par adéquation, on va dire « Buñuel, quel pervers !» En fait, on n'en sait rien. Alors, poser la question à Denis Héroux, vous avez quand même produit des films de grands pervers, je pense qui ont fait des films extrêmement pervers, que ce soit Chabrol, Louis Malle, votre frère a produit des films de Cronenberg, on en parlait il y a un moment, Gilles Kau, jusqu'à un certain point de vue, on peut dire, quelle part de cette adéquation, vous pensez, d'une part, elle peut être juste ou éventuellement peut aider à la promotion du film, l'idée que certains réalisateurs une sorte de réputation sulfureuse que leurs films...
Mais c'est ce qui est amusant dans ce que vient nous raconter Michel, c'est d'abord la nécessité d'un bon titre. Je pense que c'est ça qu'il a commencé par le dire, c'est un bon titre. Et on se racontait tous les deux. Mais je lui ai dit, mais où est-ce que tu as pris ta définition? Parce que mon premier geste, quand j'ai entendu parler du bouquin, je me suis dit, je vais essayer de revoir la définition qui est donnée tout simplement dans le petit Larousse. Je me suis dit, on va partir de quelque chose de plus simple possible. Et j'ai retrouvé donc un petit Larousse chez moi, qui datait de 1998, qui parlait donc d'une perversion sexuelle ou de perversion comme étant un compartiment consistant à rechercher de façon régulière le plaisir sexuel en dehors des rapports avec pénétration vaginale entre deux partenaires de sexe opposé, exhibitionnisme. J'étais un petit peu surpris, j'avais pas l'impression que le petit Larousse de 1998 allait donner une définition comme celle-là. Et je me suis aperçu, en parlant tout à l'heure avec Michel, que lui-même a pris une définition qui venait du Larousse également, non?
Du Robert, oui.
Du Robert, non?
Qui est moins spécifique, une sorte de définition du Robert est un peu plus générique, un peu plus théorique. C'est dans l'idée de, dans le Robert, c'est que est pervers celui qui retourne à l'envers ou qui est hors norme.
S'il part de l'étymologie latine.
Mais bon, c'est ce qu'on dit dans le fond, cette notion-là, c'est une ligne qui est à traverser quelque part.
C'est une déviation.
Et voilà, oui, c'est ça. Et moi, je veux revenir sur cette notion de voyeur, parce que vous le liez d'une façon personnelle, André. Quand j'ai fait Valérie, qui était le fruit aussi d'une contrainte commerciale comme la même que Michel a décrit, il reste quand même qu'avec mon directeur photo, quand on a fait le premier plan, je lui ai dit, il n'était pas préparé pour ça, il n'avait pas les bonnes lentilles, mais je veux un film d'un gros plan extrême d'un œil, parce que c'est un film de voyeur. Et le premier plan, c'était cet œil, et le deuxième plan, ensuite, c'était une allumette que Daniel allumait, et par la suite qu'une bougie qui s'enflammait comme si le désir passait par là. C'est un jeu, c'est un langage que le cinéma se permet de faire, et il ne nécessite pas nécessairement que l'auteur, le réalisateur, les comédiens, chacun de ces personnes soient des pervers nécessairement. Mais c'est ça, je pense que c'est ce qui fait la partie du cinéma. La question que je voudrais retourner vers Michel pour lui permettre de parler, parce que c'est lui qui a quelque chose à nous raconter là-dessus. Quand je regarde sa définition du voyeur, référence avec le film de Peeping Tom, il reste quand même qu'on parle donc de gens qui se déplacent pour aller dans une salle obscure. Bon, moi j'aurais rajouté commune, donc où il y a beaucoup de monde. Mais pas nécessairement le cinéphile, il me semble. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Parce que, bon, moi, si je prends mon aventure personnelle, lorsque j'étais adolescent, j'aimais afficher cette différence. Je n'avais pas envie de voir un film ou un cinéma très, très traditionnel. Je voulais pas me cacher. Évidemment, on se cache peut-être à certains moments, puisque les gens quittaient des endroits où on jouait des films porno qui avaient mauvaise réputation, ou des films d'horreur qui envahissaient complètement l'aventure, et les gens ne voulaient pas montrer qu'ils aimaient ça et qu'ils y allaient. C'est peut-être une possibilité. Mais pourquoi vous avez rajouté nécessairement qu'il ne veut pas être vu?
Moi, je suis parti de la définition freudienne classique de la scène primitive. Enfin, c'est l'une des bases du voyeurisme, c'est que le voyeur veut voir, mais il est très important qu'il ne soit pas vu lui-même. Donc, alors c'est justement c'est la définition du cinéma, parce que le problème du cinéma, enfin, au théâtre, les acteurs ils peuvent regarder les spectateurs, tandis qu'au cinéma ils sont sur une toile, donc c'est des reproductions d'acteurs. Il n'y a pas de communication entre l'espace de l'écran et l'espace de la salle. Donc, c'est le fondement du voyeurisme. Donc, alors, je veux pas. Bien sûr, les spectateurs de cinéma sont en groupe, en couple, en trio, tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on drague la spectatrice d'à côté, on n'est plus voyeur. Hein, donc, parce qu'on ne regarde plus le film. Hein, donc. C'est très bien vu dans les films d'Eustache, ça. Donc, de Truffaut, enfin, bon, mais...
Je vais partir justement de Truffaut, parce que je veux revenir, finalement, que on va regarder des photos. Donc, c'est des moments arrêtés de quelque chose qui était un film, qui était animé. Donc là, ce qui est intéressant, Je pense que c'est déjà... je me souviens quand les premières vidéos ou la télévision, on avait des publicités qui avaient été faites avec François Truffaut qui disait « Je regarderai jamais mon film à la télévision, mais maintenant j'ai constaté que je vais le voir à la télévision mm-hmm. ou que je vais mm-hmm. voir un VHS parce mm-hmm. que ça me permet de le voir plusieurs fois mm-hmm. et de pouvoir m'arrêter. » C'est ça qui est mm-hmm. absolument intéressant, c'est que on peut s'arrêter, et c'est mieux qu'un coffee table, finalement, parce que c'est plus commode, c'est plus manipulable. Un coffee table, c'est tellement installé qu'en réalité, quand vous tournez la page, vous ne voyez pas de la même façon. Là, vous avez la chance de voir le regard, le cadrage, la lumière, mm-hmm. et de vous repasser cette douce mémoire du film qui se continue animé à mm-hmm. l'intérieur de vous, alors que là, lorsque vous le regardez, il est bloqué.
Et vous amenez un point tout à fait intéressant, si je me permets de rebondir sur un truc que vous venez de dire. En effet, à ce que, et ça, éventuellement, j'ouvrirai la question à Martin, à qui, j'aurais, oui. qui j'aurais une autre question. Est-ce que vous croyez que cette cinéphilie qu'on a souvent associée à diverses formes de perversion, enfin, diverses formes du voyeurisme, au fétichisme, etc., se déplace quand on passe de la salle de cinéma à la maison? Est-ce qu'on est moins voyeur? Est-ce qu'on est moins... on va reparler peut-être par rapport aux conclusions de votre livre, quand vous faisiez un peu l'énumération de tous les dispositifs, toutes les plateformes qui, aujourd'hui, nous permettent d'être de laisser libre cours à toute forme de perversion. Si vous voulez voir de la zoophilie, ça peut très facilement être vu selon vos... Bon, etc., etc. Est-ce qu'il y a un déplacement de la salle du cinéma en gardant que le rapport au cinéma dans la perception
Ah oui, oui. Enfin, il y a une forme de voyeurisme lié à la salle, mais d'ailleurs qui a énormément changé historiquement. Donc il ne faut pas croire que la salle de cinéma a toujours été la salle à l'italienne avec l'écran noir, avec le noir, etc. Donc ça a évolué suivant les décennies, les pays. Donc on ne voit pas du tout un film muet en 1910 comme un western en Afrique noire dans les années 50. Donc il y a des postures spectatorielles extrêmement différentes les unes des autres. Et alors bon, et voir aussi un film sur un écran de télé, c'est tout à fait différent. Donc, mais c'est une autre forme de voyeurisme. Donc, c'est-à-dire que on voit dans la pénombre ou bien en pleine lumière. Donc, c'est le noir est très important. Donc, mais on peut quand on voit en plein jour, on peut être voyeur en plein jour aussi. Donc,
avec une différence, c'est qu'à la télé, on peut voir en direct. Ça, je pense que ça change beaucoup la donne par rapport au voyeurisme lorsque quelque chose se passe directement et que là, il y a des images en direct qui nous parviennent à la maison et qu'on regarde ça ou sur le web. Je pense que là, la dimension est changée.
D'accord.
Mais je voudrais revenir sur quelque chose que, en fait, mes deux collègues ont mentionné, c'est la question des photos. Parce que ça, d'un point de vue de la production, c'est-à-dire que c'est important pour la production du bouquin, dans ce cas-ci, Michel, tu nous as bien expliqué ça. Et puis, Denis Héroux nous a parlé de la dimension mémorielle aussi qui était en jeu. Moi, ce qui me frappe beaucoup avec les photos, parce que c'est un livre très bien illustré, c'est le rapport entre les photos et la perversion, si on veut. Mm-hmm. À la fois, on pourrait dire perversion du cinéma lui-même, de l'arrêter, et de fétichiser les moments, plutôt que le film qui court. Mais en même temps, la question, je ne vais pas m'empêcher de penser à une remarque qu'avait faite il y a beaucoup d'années, Laura Mulvey, qui avait dit « Le sadisme requiert un récit. » Comme si, somme toute, pour la perversion, on nécessitait un déroulement, un déroulement temporel, une dimension, un scénario. Et que quand on regarde ces images, une après l'autre, on se rend compte que, prises en soi, beaucoup d'entre elles ne sont pas nécessairement perverses, ou du moins ne renvoient pas nécessairement la perversion. Et là, je regarde le texte. À côté, le texte parle beaucoup du récit.
Le texte est
fondé sur le récit et il y a l'image qui l'accompagne. Donc on essaie de reconstituer un peu le film, en fait, l'image récit. Mais est-ce que, somme toute, au fond, la situation fondamentale est celle de précisément du récit? Est-ce que dans la perversion ici, est-ce qu'on ne cherche pas à faire sortir la trame narrative, d'abord et avant tout, l'événementialité?
De toute façon, la notion de scénario transposée du cinéma, est une des bases de l'analyse psychanalytique. Hein. Donc surtout, par exemple, dans les rapports sadomasochistes, il y a toujours un scénario. Hein. Donc s'il n'y a pas de scénario, ça ne marche pas. Hein. Donc il y a même une organisation scénaristique très très précise, ce que montre fort bien le film de Barbet Schroeder, Maîtresse, par exemple, et beaucoup d'autres. Donc, alors c'est pour ça que dans le livre, j'ai beaucoup développé l'aspect narratif des intrigues. Donc, alors la photo, enfin, moi, disons que j'étais, il y avait des contraintes, hein, il fallait les trouver, etc. Bon, j'ai fait un autre livre beaucoup plus personnel avec Julien il y a 2 ou 3 ans, lire des images de cinéma. Donc là, au contraire, on n'a pas du tout utilisé. Ici, c'est que des photos de plateau ou de tournage. Hein. Donc là, on a fait que des captures d'écran et on a multiplié, alors de manière extrêmement fétichiste, donc par exemple Vertigo ou n'importe quel autre film, donc on a démultiplié les photogrammes, donc pour analyser le cadrage, la mise en scène, le montage, etc. quoi. Ici, donc, c'était pas du tout le principe, hein, donc c'était des photos qui, mais en même temps le texte a été conçu à partir du choix des films et des photos, parce que au départ, enfin, ça dépend des auteurs, mais il y a eu une espèce de va-et-vient, de dialectique entre donc l'ensemble des photos et puis les chapitres qu'on développait. Bon, par exemple, moi, il y a pas mal de films qui ont sauté parce qu'il n'y avait pas assez de place et puis parce qu'on n'avait pas trouvé les photos adéquates. Mais puis, bon, il a fallu que j'en choisisse. Bon, il y avait La Petite de Louis Malle, il n'y a presque plus rien, enfin, etc. J'avais mis des films de Catherine Breillat, ils ne sont plus là. Enfin, bon.
Mais est-ce que tu... En fait, ma question, c'est plutôt, est-ce que tu crois que les perversions existent dans l'image fixe? Est-ce que les photos de Maple Thorpe...
Bien sûr. Oui, mais moi je suis un pervers qui fonctionne à l'image mobile. Oui. Ouais, donc, alors... c'est vrai que je pense qu'il y a des amateurs de théâtre, il y a des amateurs de cinéma, des amateurs de photos. Alors peut-être qu'il y en a qui arrivent à croiser les trois, hein, donc des pervers polymorphes. Hein, mais j'ai pas du tout le même rapport à la photographie. Donc alors parmi nos collègues, il y a des grands spécialistes de la photographie qui s'intéressent aussi au cinéma, mais ils s'intéressent au cinéma expérimental, à la vidéo, mais bon. Beaucoup moins au cinéma narratif classique. Bon.
Peut-être qu'à chaque fois, enfin, il y a aussi une question qui est un peu sous-jacente à une des discussions qu'on a depuis un moment. La perversion est où, en fait? Parce qu'à la fin, on a parlé de la position donc, du spectateur, hein, qui
oui,
est
oui,
un
oui,
brin
oui,
pervers.
Oui,
et enfin, ceci dit aussi, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, c'est une des formes de perversion qui sont très multiples. Vous parlez de la perversion du pouvoir, de l'État, de la religion. Mais revenons un peu sur les termes qu'on a définis ici.
D'accord.
La perversion est tantôt chez le spectateur, tantôt dans l'image, tantôt dans la relation entre le réalisateur et ses acteurs, par exemple, on va dire, de Streim ou de...
Non, mais ouais, en fait, justement, au départ, il y a eu un flottement sur la commande. Hein. Pour moi, c'est un livre de commande. Hein. Enfin, je n'ai écrit que des livres de commande. Hein. Donc, c'est le seul que j'ai écrit sans commande, il n'a pas marché du tout. Donc.
Bon.
Alors, il y a eu un flottement. C'était, on va faire la perversion au cinéma. C'est tout à fait autre chose. Et puis Tamizier dit ça a moins bien marché. Faisons les grands pervers. Hein. Non, mais il voulait parler des personnages. Hein. Bah, il a jamais explicité si c'était les réalisateurs. C'était les personnages. Donc, donc moi j'avais commencé à écrire sur la perversion en général. Donc et puis donc j'ai rétabli le tir en insistant sur les personnages. Quoi. Mais comme mon idée initiale, c'était le spectateur, hein, donc je suis passé de l'un à l'autre tout le temps. Quoi.
C'est intéressant.
Mais bon, c'est-à-dire c'est un essai de 120 000 signes. Hein, donc, comme je l'ai dit, on peut faire l'encyclopédie de Kraft Ebing en 25 volumes sur la question. Hein.
Parce que justement, pour vous, Denis Héroux, quand vous dites que Valérie est un film sur le voyeurisme ou sur le voyeur, enfin le voyeurisme pour vous c'est un film sur le voyeurisme, c'était un film pour dénoncer ou mettre en scène ou profiter, si on veut dire, du désir voyeur du spectateur,
non, y a,
de l'exhibitionniste de Daniel Wimmer.
Il y avait une volonté de tout simplement... Il y avait un moment, il faut le remettre dans le contexte, c'était le moment où Hiroshima, mon amour, la version au Québec durait 40 minutes. Bon, où, je peux continuer comme ça, c'est qu'on ne montrait pas que ce soit les films I'm a Woman ou L'Empire des Sens. C'était dans... Il faut le remettre dans ce contexte-là. C'est pour ça que je disais que la ligne est d'une quand on la regarde par la suite, on trouve ça bien, bien petit, ce que c'était. Mais c'était quand même un phénomène important, puisqu'il y avait 1 million de personnes qui sont allées voir ça. Donc, il y avait quelque chose qui était en mouvement. Je pense que c'est comme ça que ça s'explique à ce moment-là. Mais c'est un phénomène qui était observable ailleurs. Quand le film a joué au Maroc, le distributeur, sans en avertir la population, on avait coupé une demi-heure. Les gens, quand ils ont réalisé que chaque fois qu'elle commençait, ça coupait, ben les gens, à un moment donné, ils ont démoli tout le cinéma et ils sont partis. Parce qu'ils avaient été floués et ils le savaient. Ça fait partie d'un jeu. Je voulais revenir sur cette idée de la photo arrêtée, parce que pour moi, Michel montrait très bien le lien avec le théâtre. Et pour moi, j'avais le lien, je pense, avec le récit, avec le roman. Parce que ce qui me fascine maintenant, quand on regarde ça avec les photos, quand on a chez soi son DVD, c'est comme lorsqu'on regarde un événement sportif, on se le repasse, mais on l'arrête. On le passe au ralenti, on le passe en accéléré, on modifie la relation que l'on a. Donc, dans le fond, si j'ai à te produire dans l'avenir, Michel, tu vas publier un DVD à côté du livre ici. Parce que...
C'est réactif.
Réactif, tout ça. Mais moi, ça, je trouve ça intéressant parce que je dis toujours que quand on lit un roman, finalement, le temps de réflexion, il vient, c'est quand on s'arrête en deux lignes. Et généralement, cette continuité du flow, quand on voit un film, n'existe pas. Il n'y a pas d'arrêt comme ça. Et là, tout à coup, parce que la technologie nous conduit vers ça, et c'est pour ça que ça conduit bien aux photos, ben là, on a une espèce de réflexion qui a le temps de se faire. La raison l'emporte peut-être pour l'émotion et tout ça. Mais en même temps, pour ceux qui recomposent leur propre scénario, ils ont le temps de se réorganiser et le faire autrement.
Je crois que clairement, je pense que vous avez raison de le dire, une sorte de plaisir pervers, soit à ralentir. Le ralenti fait partie de ces... Alors, il y a perversion et perversion, hein, donc c'est une lecture non normée, hein, non, pour rester dans la définition du Robert cette fois, et non pas du Larousse, de la perversion, qui est une très belle définition par ailleurs. Mais donc, je pense que vous avez adopté une définition plus volontairement plus large, de la perversion.
Polymorphe, oui.
Plus polymorphe. mais d'ailleurs, c'était peut-être une sous-question aussi que j'avais. C'est-à-dire, quand on regarde votre livre, donc on va en effet de la... tous les philies, nécrophilie, zoophilie, machin, couple sadomasochisme, fétichisme, et jusqu'à la femme manipulatrice, l'ingénue, qui est aussi une autre forme de perversion, et jusqu'aux perversions étatiques, institutionnelles, l'Église comme institution normée, normopathe, vous avez dit, mais qui ont leur propre déviance, si on veut, produisant. On peut se dire qu'en fait, d'une part, on peut se demander si c'est bien... Enfin, c'est bien le même type de perversion, évidemment non, mais on peut tous les mettre dans le même panier. D'autre part, ce qu'on voit bien, c'est que la société, et on voit par l'encyclopédie que vous pointiez, qu'on peut rajouter, on aurait pu rajouter des centaines et centaines de pages encore, on voit à quel point, d'une part, la société a généré des pervers fantastiques, des films terriblement pervers, mais qu'au-delà de ça, la société a produit, la société est profondément perverse, comme Proust qui disait que la société était composée d'un
Mais ça, c'est la thèse de Roudinesco avec laquelle je suis totalement d'accord. En fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est de traquer la perversion dans les rapports de pouvoir. Enfin, ça, c'est assez évident. Mais aussi, par exemple, dans le monde du travail. Donc, il y a dans la hiérarchie, dans les rapports de travail, il y a toujours une dimension perverse qu'on censure, donc, et qui a été bien, très très bien développée dans certains films.
Ressources humaines, la question humaine de Nicolas Klotz.
C'est pour ça que j'ai voulu montrer que la perversion n'était pas que sexuelle. Donc bien au contraire. Elle a malgré tout une origine sexuelle, mais elle se transforme.
Comme Freud a bien montré comment ça se
déplace. Voilà.
Peut-être sur cette question-là, pour revenir à la question du plaisir, est-ce qu'il y aurait. Vous avez travaillé, Martin, sur des pervers. Des pervers, oui. notoire, Norman Bates entre autres, l'anthropophage, etc. Et vous êtes intéressé aussi à la question de la réception spectatorielle. Est-ce que vous avez réfléchi un peu, peut-être, comme ça, là, un brûle-pourpoint, sur le pourquoi, s'il y en a autant au cinéma, ce qu'il faut croire qu'il génère une forme de plaisir particulière. Est-ce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui, dans notre rapport à l'image, au spectacle de la perversité, génère un plaisir singulier?
C'était la question que j'allais poser à Michel Marie. Est-ce que le cinéma a un lien privilégié avec la perversion? Est-ce qu'il y a donc une autre façon de la poser? C'est, est-ce qu'il y a une spécificité de la perversion au cinéma? Ou troisième version, un peu de la même question, est-ce qu'il y a une façon de mettre en scène la perversion spécifique? Est-ce que la perversion se met en scène de la même façon chez Hitchcock, chez Buñuel, chez Haneke? La place du cinéma là-dedans, parce que si je regarde, moi bon, j'ai travaillé un peu, oui, sur des pervers, mais j'ai pas travaillé sur eux en tant que pervers, si on veut. C'est-à-dire en tant que pervers dans le film et en tant que pervers comme spectateur, ça je sais pas, mais j'ai pas travaillé sur eux en tant que pervers. Et donc cette question-là est pas apparue dans son rapport particulier au cinéma, si on veut. Mais c'est sûr que quand je regarde je parlais tout à l'heure du récit, l'ouvrage de Michel passe par la fiction. On pourrait se poser la question du documentaire. Il y a des formes. Hein. Oui, c'est-à-dire que lorsque c'est Bazin qui parlait de ce film où tous les jours il y avait quelqu'un qui se faisait descendre.
Bon, tous les après-midi.
Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que dans le documentaire il y a des marques tout aussi grandes de la perversion? Et quand il y a le porno aussi qui est pas discuté ici, peut-être trop évident. Mais en même temps, où il y a aussi des traces évidentes de la perversion à la fois chez le spectateur et à la fois chez le consommateur et du côté de l'écran.
Oui, bon, y a un autre livre à écrire, hein, c'est certain.
Mais peut-être pour...
Non, mais... Ouais, c'est-à-dire que il y a une forme de perversion qui est lié à une forme de cinéma. Donc, par exemple, le code Hays américain, donc, il a généré des perversions extraordinaires dans les films classiques, quoi, donc, par déplacement. Hein, donc, alors, moi, je me suis intéressé, oui, au cinéma grand public, en partie, donc, avec des quelques limites. Comme maîtresse de Barbet Schroeder ou d'autres. C'est vrai que ça existe aussi dans le cinéma documentaire, hein, bien évidemment. Donc, mais si j'allais citer les films documentaires, l'éditeur m'aurait dit. C'est pas très commercial, ça, quand même. Il y a une perversion de tout simplement de l'organisation du tournage aussi, de la captation, on peut le retrouver à tous les niveaux. Mais je pense qu'il y a une forme de perversion voyeuriste qui est liée au fonctionnement du cinéma classique. Ça, c'est la thèse de Bélour, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. Je crois que ça me paraît très juste. Donc, celle qu'on trouve chez Hitchcock, notamment. Enfin, ça, il est presque emblématique. Hein. Mais y en a bien d'autres.
Hein. Parce que justement, oui, disons que cette figure...
Par exemple, l'histoire de... Ce qui m'a toujours frappé, moi, c'est quand je lis des livres de psychanalyse, ça m'arrive des fois, sur le sadomasochisme. Donc, il y a toujours un scénario. Bon, et par exemple, j'ai revu Maîtresse, qui est un de mes films fétiches, parce que je l'avais pas vu depuis un certain temps. Donc, et la maîtresse, c'est le metteur en scène. Donc, c'est elle qui organise le rituel, puis ça marche à la baguette, hein, on n'a pas intérêt à changer de scénario. Donc, il y a plein de scénarios, de réalisateurs qui se sont identifiés à cette figure. Stroheim, Clouseau, Sternberg et bien d'autres. Quoi. Donc, il y a une espèce d'homologie, hein, entre la mise en scène cinématographique, hein, la manipulation des acteurs, des techniciens, des psychodrames qui se passent pendant les tournages, et puis le scénario. Sadomasochiste. Ça, c'est formidable. Et ça donne parfois de très grands films, comme des trucs complètement ratés. Ouais, bon.
Mais est-ce que du coup, le scénario du sadomasochiste est le même que le scénario du voyeur, par exemple? Si on prend deux exemples, Maîtresse, justement, et Rear Window, on voit bien que le personnage de Jimmy Stewart se fait un scénario. Il y a un scénario, mais qui est généré de la manière différente. Le scénario du sadomasochisme est toujours pré-écrit, en quelque sorte.
Oui,
le
oui.
scénario du voyeur est un scénario qui se projette. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà deux modalités du scénario, à la fois en amont chez le cinéaste et en aval dans la relation du spectateur, par exemple. Le plaisir sadomasochiste, peut-être, on parle à haute voix, on pense à haute voix là, mais le plaisir peut-être sadomasochiste au cinéma, c'est peut-être celui de savoir le déroulement du scénario d'avance, et un plaisir à la fois sadique et masochiste à subir ce scénario-là, alors que le scénario du voyeur, qui me semble plus intéressant par ailleurs, est celui qui justement spécule, se projette, va de l'avant, et que dans un cas comme dans l'autre, peut-être, ces deux postures à la fois de cinéma, peut-être, et deux postures de réception, qui me semblent perverses, faute d'autres mots, mais je pense assez répandues en tout cas.
Oui, humaines.
Humaines, oui. Mais la perversion est très humaine.
Façon, oui,
c'est ce qu'on apprend en lisant votre livre.
Bon, c'est-à-dire que non, mais c'est la base de l'être humain, c'est d'avoir une base perverse. Donc, alors, sauf qu'il y a les pervers inoffensifs, ceux qui sont là ce soir, et puis il y a des pervers pathologiques. Donc, il y a peut-être des pervers. Bon, donc, alors, ceux-là, ils sont dangereux.
Faut se méfier, Michel, faut pas parler trop fort. Surtout pas les nommer, ils pourraient se manifester.
Donc, voilà. Il y a des. Alors, c'est la société qui définit la norme, la frontière à pas franchir. Bon. Mais pour revenir au film de Barbet Schroeder, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnages sadomasochistes, une maîtresse, des clients qui payent, etc. Mais il y a un voyeur qui est le personnage qui incarne Depardieu. Quoi. Donc, parce que lui, il débarque de province, il veut faire un cambriolage, il sort de tôle, puis tout d'un coup, il voit ce dispositif, ça s'hilaire, et puis donc il va entrer dans le système.
Ouais. Parce qu'il est un peu, je te sens doute, une sous-matière matricielle dans la scène de Proust, où le jeune Marcel, plus si jeune dans le roman, voit Charlus se faire fouetter dans le bordel où il s'est ramassé par pur hasard. Hein. Il s'est soi-disant perdu, il s'est ramassé dans le bordel, il se met à regarder à travers. C'est une des scènes matricielles du film de Schroeder.
Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Michel. Je pense qu'il y a d'autres exemples. Il parlait du réalisme pendant le tournage. Il est sûr que finalement, le cinéma, c'est de la magie, c'est de la tricherie, c'est de l'illusion. Il ne faut pas croire que finalement, ces films-là, ils sont tournés différemment que les autres films qui n'incluent pas de tels gestes pervers. Le cinéma ne montre pas la mort en tuant vraiment quelqu'un. Donc, je pense que on doit aussi intégrer cette chose que c'est un jeu. Et on voit très bien que ce jeu, maintenant, avec la nouvelle technologie, si vous regardez simplement la question de la pédophilie, et quand vous remarquez ce qui se produit, c'est évidemment des gens qui font circuler le plus grand nombre de documents. C'est ce qui semble être l'excitation pour le moment. Mais là où le cinéma a un côté réconfortant, c'est qu'il peut montrer tout. À partir du moment où les gens ne passent pas à l'action, comme on disait il y a quelques instants, il peut montrer tout. Et il va montrer, d'abord, les interdits. Ça, c'est bien, c'est confortable, finalement, puisque vous n'avez pas besoin de le faire. C'est cette consultation, c'est cette vérification qui se fait par d'autres. Mais je pense que c'est ça, cette question du réalisme m'inquiétait, comment vous le...
Mais je pense que dans le cas de Maîtresse, c'est peut-être un bon et un mauvais exemple, dans la mesure où Maîtresse, ce sont véritablement des acteurs qui jouent leur propre rôle, qui se font véritablement infliger les supplices. Donc il y a peut-être ça aussi qui est intéressant dans Maîtresse, si on prend juste cet exemple-là, par rapport à, je sais pas, Catherine Deneuve qui se fait fouetter dans Belle de jour. On imagine bien qu'elle ne s'est pas fait cravacher très sérieusement. Enfin, par rapport à Maîtresse, il y a une part du plaisir, disons, un plaisir un peu délicat, un peu embarrassant devant ce film. Savoir que c'est pour de vrai.
Oui, d'ailleurs.
C'est un aspect un peu... qui est un peu limite du film, à la limite. Aussi.
J'ai fait une séance comme ça à Paris, donc, et on a projeté le film, et il y a certains spectateurs qui ont été un petit peu ébranlés. Quoi, donc, mais justement, il y a le seul acteur des clients masochistes, c'est celui qui a un rapport d'interaction avec Depardieu, parce qu'il joue un rôle de fiction. Donc, c'est un acteur de théâtre, donc il est enfermé dans une cage, alors Depardieu commence à le bousculer, le battre. Bon, c'est un acteur. Hein, donc, tandis que tous les autres, c'est des vrais clients qui ont payé pour les services qu'ils ont programmés. Donc, et c'est eux qui ont amené les éléments de scénario. Quoi. Donc ça, c'est pour ça que le film est passionnant, parce qu'il intègre des éléments de documentaire dans un film de fiction. Bon, schéma banal, hein, tous les profs de cinéma sont capables de faire 3 heures là-dessus.
Et Dieu seul sait qu'on en fait.
Il y a une figure, Michel, qui revient au tout début de ton livre, c'est celle du normopathe.
Oui. Ah oui, d'accord. Ouais,
et ouais, ouais. Alors, le normopathe, c'est celui qui, dont la perversion est de suivre la norme.
C'est ça.
Est-ce que cette perversion se retrouve chez les spectateurs de films, tu vois? Les spectateurs de films normopathes.
Oui, je pense. Bah, c'est-à-dire que quand tu as une réaction de violente hostilité à un film, c'est parce que ça ne correspond pas à ta norme interne. Donc, tu as envie de casser le fauteuil, de balancer de l'encre. Il y a des films qui peuvent provoquer des réactions comme ça. Hein, donc, ça arrive. Assez souvent, enfin, sauf que, comment dire, enfin, assez souvent, il n'y a pas de sociologie des spectateurs, enfin, il y en a un petit peu, mais c'est une des disciplines qui est les moins développées dans les études cinématographiques. Donc, enfin, des études réelles de comportement de spectateurs. Tout film provoque, enfin, ça dépend, on peut dormir, etc., mais aussi des réactions d'adhésion, d'émotion, ou au contraire d'aversion. Hein, on a tous connu ça. Hein, donc, des rapports d'antipathie ou de sympathie violente vis-à-vis de tel ou tel acteur, personnage, ou même du film globalement. Hein, donc, il y a des films qu'on a tous détestés, puis d'autres qui sont des films fétiches, qu'on envie de revoir 40 000 fois, donc bon.
C'est... Est-ce que vous pensez que, juste pour venir à tout qu'on a esquissé, effleuré tantôt, sur la, et vous le disiez un peu plus tôt, sur cette espèce d'extraordinaire disponibilité aujourd'hui avec la multiplication des plateformes, oui. Et vous le dites un peu à la fin de votre livre, en fait, où, tant qu'en effet on n'est pas... on ne transgresse pas de loi particulière, on ne tue pas un animal, on fait bon, etc. En fait, tant qu'on n'est pas, d'une part, en rupture avec la loi, et tant qu'on n'est pas psychiatriquement diagnostiqué comme cliniquement instable et donc dangereux pour la société, on vit assez bien avec nos perversions. Il y en a, on le sait, des quantités de gens qui occupent des postes de juge de la Cour suprême. Que sais-je, ministre, tout ça, évêque.
Bon. Non, mais je pense que plus loin que pour exercer cette fonction sociale, il faut être un pervers. Sinon, tu peux pas. Même, je pense que même pour être prof, il faut être pervers.
Il y a des étudiants qui sont pervers aussi.
On a joué, c'est ça.
Ben oui, bien sûr. Ben, on a tous rencontré beaucoup.
Mais la question, un peu, bon, c'est une question à. À 1000 piastres, comme on dit ici, est-ce que vous considérez que justement, est-ce que la multiplication de ces plateformes, y compris du cinéma, a généré chez des gens des passions ou a simplement rendu plus symptomatique ou fait apparaître les symptômes d'une société, d'une humanité qui a toujours été perverse depuis les Égyptiens, Caligula, etc.
Oui, mais c'est une nouvelle forme. C'est, bon, simplement, elles sont médiatisées.
Est-ce que ça peut les engendrer?
Ben, oui, par exemple, il est évident qu'Internet a démultiplié d'une manière absolument exponentielle l'exhibitionnisme, hein, puisque tu peux voir des personnes privées dans leur vie, etc., de tous les jours. Bon, et puis et ça a démultiplié aussi le voyeurisme, par de conséquence. Donc, c'est-à-dire que il y a 10 000 façons d'être voyeur aujourd'hui, alors qu'il y a 50 ans, c'était un peu plus difficile. Enfin, on y arrivait quand même, mais bon.
Et on le voit aussi dans les cas de. On les voit aussi dans les cas de pédophilie, le nombre de passages à l'acte via Internet, etc.
Ben, ça, c'est. Je sais pas. Enfin, bon,
c'est pas nous qui allons.
Oui, parce que.
Non, c'est médiatisé aujourd'hui, mais est-ce que.
Enfin, est-ce qu'il y en avait moins avant?
Non, voilà, c'est. Bon, quand tu lis le bouquin de Roudinesco sur le 16e siècle, l'histoire, des saintes religieuses, c'est absolument hallucinant. Donc. Bon, et puis, la notion de pervers, ça vient du 19e siècle. Hein, donc, c'est un terme de psychiatrie. Donc, et puis, mais justement, maintenant, le terme a été évacué dans l'institution psychiatrique. On parle maintenant de, par exemple, de paraphilie, hein, donc, ou de conduite sexuelle déviante, mais c'est plus, par exemple, l'association des psychiatres américains a exclu le terme de perversion, comme l'Organisation mondiale de la santé aussi. C'est assez... Donc, en fait, qui définit les pervers, c'est ce que démontre Moulinescu, la justice. Donc, il y a eu un transfert du concept de l'institution médicale à l'institution judiciaire. Donc, c'est la justice qui définit la transgression. Hein, donc, ce qui est tolérable et ce qui est intolérable. Hein. Donc, c'est vrai pour la pédophilie, pour tout ce que tu veux. Hein, donc, tu peux faire ce que tu veux chez toi, si personne le voit, il n'y a pas de problème.
Donc, pourquoi moi particulièrement?
Je vais réagir à ce que tu disais, André, parce qu'il me semble que quand on regarde l'histoire de l'étude du cinéma,
oui,
y a un grand point de démarcation autour des années 60, où ça se professionnalise. Mais avant les années 60, il y a une grande partie de l'étude du cinéma qui se lie aux sciences sociales, aux États-Unis en particulier, les Pain Fun Studies. Bon. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on... Et la filmologie a baigné là-dedans aussi un peu plus tard. On a peur que le cinéma conduise à des délinquances. Hein, on en a beaucoup parlé. Bon, derrière ça, il y a une forme d'iconophobie. On a peur que le cinéma se substitue, offre une substitution à la réalité, que les gens vont ensuite mimer cette réalité-là. Après les années 60, il y a un retournement de l'iconophobie. On reste tout autant iconophobe, mais la différence, c'est que soudainement, on pense que le cinéma offre des formes de contrôle idéologique. Et là, on se met. Alors, c'est tout la screen theory, c'est tout le mouvement de ce qu'on a appelé l'herméneutique de la suspicion. On pense que le cinéma est une forme de contrôle et se substitue, et on essaie de montrer pourquoi le cinéma ne se substitue pas au réel. Dans les deux cas, toutefois, l'enjeu tourne autour de la crainte que l'image se substitue à quelque chose qui serait le réel. Donc une forme d'iconophobie qui remonte à très très loin, ça qui marque la culture occidentale. Donc devant cette iconophobie, en fait, on a aussi peut-être une réaction qui est d'ordre paraphilique, hein, ou d'ordre donc névrotique, ou d'ordre pervers,
obsessionnel.
Mais certainement, ça marque un rapport avec le cinéma, ça, de façon assez générale. Parce que ta question, c'était autour de Internet, et est-ce qu'on devient plus... Alors, cette même question-là, c'est la question qu'on a posée au cinéma. Et c'est la question qu'on a posée ensuite à la bande dessinée. On l'a posée au rock'n'roll, à Elvis, etc. Toutes les formes...
Les lecteurs de Zola.
Voilà. Mais avec le cinéma, il y avait une trace, il y avait une marque particulière qui était liée à cette substitution au réel. Et ça se poursuit avec l'Internet, ça, si tu veux.
Tout c'est un art de masse. Je pense aussi le fait art de masse, art industriel... qui tout de suite touche des millions et des millions de gens. Il y a ça aussi, je pense, l'influence directe par la fascination de l'image, redoublée par la quantité de gens qui, tout à coup, nos pauvres enfants, vont être exposés à la femme dénudée, etc. Enfin,
et une grosse différence entre... Parce que si on regarde l'industrie de la porno, par exemple, ça commence à la fin des années 60, il y a les grands films américains porno de grande consommation. Et évidemment, le cinéma d'amour est encore ouvert, mais peut-être pas pour très longtemps, et c'est le dernier à Montréal. Et ça s'est déplacé. La porno, c'est le lieu de la pornographie, s'est déplacé des salles de cinéma vers la maison, en fait. Oui. Et vers des objets qui sont des objets la télé, c'est un objet de la maison, un objet comme l'ordinateur, des objets familiers qui sont comme un frigo, un poêle, les gens les achètent dans les mêmes magasins, et je pense qu'on prend peut-être pas assez en considération cette dimension de la familiarité de l'objet. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se produit lorsque cet objet qui nous amène ces images et qui assouvit des perversions est un objet à la maison, un objet quotidien, domestique, complètement domestiqué, et avec lequel on a l'impression d'entretenir une relation intime, c'est-à-dire on est seul chez soi, alors que bon, tout le monde sait qu'on ne l'est pas, mais on, le dispositif lui-même change toute la c'est plus la salle de cinéma, c'est plus le public, le dispositif change la dimension et le rapport qu'on a avec cet objet.
Tout à fait. Vous voulez rebondir, sinon j'aurais une question.
Oui, juste un très court finalement là-dessus, et c'est aussi la conclusion dans le bouquin de Michel. Quand on parle de ce changement global, on revient toujours à l'expression du village global de McLuhan, mais en réalité, c'est l'écran qui est global maintenant. Et je pense que c'est ça qui est aussi un choc intéressant quand on voit, c'est quand on a ce débat des gens qui doivent se cacher, montrer que les yeux vont. Cet écran-là nous poursuit partout, il est partout, que l'on aille dans un restaurant, qu'on aille sur la rue. Ce n'est pas simplement comme une façon de se sécuriser, de copier, d'observer les autres, mais on est habitué de vivre dans ce système-là. Et on veut cette immersion, c'est ce qu'on demande au cinéma actuellement. Le film, le succès maintenant, le film de Cameron, c'est cette immersion dans laquelle les gens veulent aller. Et c'est une tendance. Là, il y a rupture, de la même façon que tu parlais de la rupture des années 60.
Oui, moi, je pense qu'il y a plutôt continuité que rupture, parce que le cinéma, la 3D au cinéma, c'est un vieux mythe des années 30. Il y a, en 41, il y a un grand livre qui s'appelle Le mythe du cinéma total, donc on a toujours cherché le relief, la couleur, donc à la fin du 19e siècle, même quand on a créé le cinéma, donc les premiers films étaient sonores, le kinétoscope d'Edison, il accompagnait le son, donc on a toujours cherché un fantasme de réalité, donc un simulacre absolu, ça renoue avec la littérature du 19e siècle, l'œil futur, Frankenstein et compagnie. Donc, relisez La lucarne de l'infini de Noël Burch, il y a un chapitre génial là-dessus.
Et pour passer du global de héros au local, et puis avant de poser la question, avant d'ouvrir la tribune pour nos chers spectateurs qui nous écoutent depuis le début, j'ai peut-être une petite colle pour vous. En lisant votre livre, bon, il n'y a pas d'exemple québécois, votre éditeur n'aurait pas très bien compris, évidemment. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que le Québec, le cinéma québécois, a-t-il produit des grands pervers, une grande sadique, la mère d'Aurore, l'enfant martyr, l'avarice de Séraphin éventuellement,
qui passait la littérature aussi. Ouais, j'ai toujours passé la petite Aurore à mes étudiants au premier cours.
Ouais. Ah, ça, c'est... Pour s'assurer qu'ils reviennent la semaine suivante.
Mais dans le monde de Michel Tremblay, il y a des directions aussi à regarder.
C'est les déviances sexuelles, oui.
Tout à fait.
Le personnage masculin de la mort d'un bûcheron, c'est un grand pervers, voilà. Quand même. Il y a un paquet.
C'est ce que je te disais, Michel, aussi, que Carl, dans ce séminaire qu'on a fait en commun, il parle de Louis Aymon comme étant un grand pervers. Et ça, c'est absolument intéressant. Si on n'a pas eu la chance de développer à l'intérieur de l'émission.
Creuser un peu les Jutras.
Il faudrait
y a eu l'Église, donc il y a des pervers. Hein,
C'est ce que je voulais entendre, entre autres.
Il faudrait gratter les curés aussi.
Oui, c'est clair. Ouais, les curés, on a produit une pelletée aussi. Donc peut-être sur ça, à moins qu'il y ait d'autres choses, peut-être ouvrir la tribune, il doit y avoir... 18 questions qu'il vous...
On accepte tous les pervers sauf les kleptomanes.
Est-ce qu'un cinéaste peut préparer un film sur Jean-Paul II qui se
flagelle? D'autres questions? Peut-être prenez le micro, ceux qui ont des questions à nos invités autour du livre, idéalement, ou des thèmes un peu qu'on a abordés ici. Sinon, moi, j'ai un tout plein. Allez-y. Monsieur, oui. En parlant.
Ça m'étonne qu'on n'ait pas parlé de censure.
Ah.
Parce que pour moi, pervers et censure, c'est les frères jumeaux, les frères qui se détestent, justement, comme les frères jumeaux. Et il me semble que la censure a contribué à la fois à refouler le pervers, mais aussi de plus en plus à permettre l'affaire au cinéma, parce qu'il y a eu une sorte de levée de la censure, non pas de la censure nécessairement du censeur, mais de la censure de la culture occidentale en particulier.
Oui, monsieur. Oui. Non, c'est-à-dire, en fait, moi, j'ai pas beaucoup parlé de la censure, parce que il était paru plusieurs livres là-dessus en France, et puis notamment un des auteurs du livre sur les hommes objets venait de faire un livre sur ce qui s'appelle Interdit aux moins de 18 ans, sur la censure du sexe et de la violence dans l'histoire du cinéma. Donc, bon, alors je l'ai mis en bibliographie, mais. Donc, c'est en effet, il n'y a de perversion que s'il y a censure. Donc, et c'est ce que montre très très bien le code Hays aux États-Unis. Donc, c'était une machine extraordinaire pour fabriquer du fétichisme. Donc, puisque le travail sur le corps des acteurs, donc par le découpage, la représentation déplacée de la sexualité, donc c'est du fétichisme à l'état pur. Ça, c'est formidable. Donc. Donc, c'est-à-dire que le cinéma a fabriqué des formes particulières de perversion.
C'est que, la censure est très forte au théâtre, me semble-t-il, parce que le théâtre ne peut pas se permettre ce que le cinéma se permet en matière de sexualité. Le théâtre.
Je ne vais pas suffisamment souvent.
C'est une autre forme de perversion que le théâtre.
La
perversion des sentiments, qui est très fort. Mais on n'a pas la même, on n'a pas le même droit à la même perversion sexuelle au théâtre.
Il y a du théâtre pornographique. Il y a des salles spécialisées. Simplement, c'est pas le théâtre admis.
Il y a eu une époque
le grand public, mais il y a des sex shops, il y a des bon, il y a à Paris, même à Montréal, je connais pas bien, mais
non, mais il y a eu une époque où Fernando Arrabal, par exemple, ce genre de metteur en scène, dans toute la foulée de Grotowski, du Living Theatre et tout ça, faisait des espèces de spectacles où on mettait en scène des actes sadiques et à la fin des spectacles, on refilait des fouets aux spectateurs pour qu'ils se fouettent entre eux, qu'ils fouettent les acteurs. Ça marchait pas très bien. On a tenté d'amener. Alors, peut-être c'est intéressant, peut-être que la résistance aussi peut-être est intéressante. Mais en tout cas, du moins, ça a été tenté aux années 70. J'y étais pas.
Oui, le living théâtre, oui. Ça.
Les formes de mise en scène d'actes sadiques ou d'actes pervers.
Ou exhibitionnisme. Moi, je me souviens très bien que j'avais un copain qui faisait une mise en scène de théâtre. Il imitait Julian Beck, la cité universitaire de Paris. Donc, à la fin du spectacle, tous les acteurs se sont mis à poil et ils voulaient que les spectateurs fassent de même. Ça a marché à moitié. Mais...
Il y a une pièce au Québec, il y a quelques années, du nouveau théâtre expérimental. Jean-Charles Gauvreau, par exemple, c'est un théâtre totalement pervers, à souhait, c'est un théâtre brillant, mais pas parce que c'est pervers.
Mais il y a un angle qui est exceptionnel au Québec, c'était le fait que, surtout pour les films français, hein, pendant longtemps, ici, jusqu'à ce que Guérin s'installe et que la censure soit réorganisée, il y avait un système où le distributeur, M. Desèves, avait des plans déjà où chaque fois qu'il y avait des amants qui allaient passer au lit directement sans être mariés, ben, il insérait dans le montage le gros plan du doigt et de la bague qu'on passait. Et ça, les gens ne s'en apercevaient pas. Ils croyaient vraiment que c'était comme ça. Et il avait monté ça d'une façon vraiment industrielle. Il y avait sa salle de montage chez lui. Et tous les films français, pendant longtemps, avaient passé dans ce... C'est pour ça que la censure, c'est particulier. Et chaque pays ne peut avoir qu'une censure complètement différente. C'est pour ça que tout à l'heure, je trouve qu'on fait un peu rapidement en disant que c'est la justice qui décide. La justice ne décide... prend beaucoup de temps avant de décider, avant que la ligne soit de passer de ce côté-là. Il y a des gens, il y a des groupes de pression. Et maintenant, on s'aperçoit... que des groupes de pression très minoritaires peuvent beaucoup plus imposer quelque chose que d'autres groupes. Ce n'est pas une question de population. On ne fait pas un vote où on proclame, il y en a tant qui sont pour et tant qui sont contre. C'est une question d'activisme qui se passe et d'une décision qui est prise presque d'une façon inconséquente.
C'est un groupe de militants pédophiles qui s'organisaient, je ne suis pas sûr qu'ils auraient beaucoup de succès.
Non.
Oui, monsieur Montal.
Le censeur est un pervers d'une certaine façon. Je pense à un personnage d'Egoyan qu'on voit dans un film d'Egoyan qui vient d'un pays, l'Ontario, où la censure a été très forte pendant très longtemps et assez violente. Et le censeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui voit, c'est un voyeur de métier qui empêche les autres par sadisme de voir. C'est sa situation.
Oui, et puis il est obligé de voir tous les films porno et violents. C'est moi, j'ai des amis qui ont été membres de la commission de censure en France, c'était effrayant ce qu'ils devaient voir. Le livre de mon collègue Laurent Julliet est entièrement sur le sujet. Hein. Interdit aux moins de 18 ans, je vous conseille.
Mais quel cinéaste français a réalisé à l'âge de 17 ans? Moi, je pense que c'est Gaspard Noé, à l'âge de 17 ans, a réalisé un film interdit aux moins de 18 ans.
Quel Gaspard Noé?
J'ai tué ma mère et pas mal non plus.
Non, mais ça a toujours été comme ça quand on était adolescent, de regarder la cote pour savoir, et on prenait, oui. On y allait si la cote était supérieure. C'est une règle d'or. C'est l'un des. Le deuxième point, c'est d'avoir le curé en chaire qui dit n'y allez pas. Là, vous avez fait votre semaine.
Mais tu parlais de la commission de censure. C'est une très belle anecdote autour des amants de Louis Malle. Mm-hmm. Alors, il y a une scène où le couple est en train de faire l'amour. Et la femme est couchée, l'homme a sa tête sur son ventre. Et hop, il descend dans l'image. Il descend dans l'image. Et à la commission de la censure, il y avait une vieille dame qui était là, elle dit « Mais il va où, lui ?» Et tout le monde s'est esclaffé de rire et ça passait la censure. C'est une histoire vraie. Comme quoi.
Ce qui est intéressant dans l'exemple que Denis a donné, c'est que j'avais jamais entendu parler normalement, la censure, c'est par soustraction.
Ouais.
Mais là, c'était une censure par addition.
Par d'impression. C'est ce que je voulais vous laisser dire, André. Mmh. C'est bien. Mmh. Ouais. C'est fascinant, ça. Et c'est pour ça que l'hypocrisie, c'est très bien montré dans le texte de Michel, ça. C'est qu'il a lié, en quelque sorte, pour l'élargir, parler dans la société, dans le système politique et tout ça. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais bon, de toute façon, vous aurez certainement intérêt à aller plus loin que simplement tourner les images, malgré qu'elles soient bien cadrées. Mais ça, je pense que Michel l'a bien présenté.
D'autres questions, d'autres remarques, d'autres... Je fais juste une petite question pour Michel. Alors, Michel me rappelait récemment que son mémoire de maîtrise portait sur les contes moraux de Romain, dont il y avait très peu qui étaient sortis. Monsieur Romain nous a quittés récemment. Alors, c'est un absent du livre. Et quand je vous ai posé la question, il dit, il n'y a pas beaucoup de pervers chez Romain.
J'ai dit ça, moi.
Il me semble. C'est peut-être Martin qui l'a dit.
Non.
Moi, je me faisais la réflexion. Est-ce qu'il y a beaucoup de pervers chez Romain? Vous qui avez travaillé sur Romain.
Oui.
Jeune Claire, bien sûr.
Oui, il y a des voyeurs. Tire les rigots, oui, ça. Je pense que le système romérien de mise en scène est un système pervers, oui, ça.
Il y a l'obsessionnel, il y a le maniaque, le collectionneur, la collectionneuse, après tout, un ensemble. Mais le film pervers par excellence vous demeure une sale histoire de Jean Eustache.
Oui, parce que c'est le manifeste du voyeurisme, donc c'est parce qu'on voit rien, mais on entend.
Il y a du récit.
Pour moi, c'est un film radical, tout à fait extraordinaire. Quoi. Donc, d'ailleurs, il n'a pas été du tout compris quand il est sorti. La presse était terrible.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être se faudrait dans d'autres types de plaisirs que ceux de l'écoute, qui sont ceux de la boisson et ceux de la nourriture et de la conversation. Moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres remarques. Bon. Allez. Partez avec. C'est quoi la phrase
Avec la bénédiction.
Voilà. Donc merci en tout cas d'être venus si nombreux et puis achetez le livre.